Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi.
On oublie que les sportifs ont un cœur d'homme.
Les grandes gueules du sport.
Et souvent il y a un cœur de sportif, mais il y a un cœur sportif dans un corps d'homme. Et avant tout, il y a un cœur.
Jean-Christophe Drouet.
Et le cœur de Denis Charvet. Denis est atterré.
D'accord sur les débats avec un philosophe pareil. C'est bon week-end là.
Je pense que le jour où on assistera à son enterrement, on chantera cette belle phrase.
C'est gay ça.
Ouais, mais bon, comme c'est plus vieux d'entre nous.
C'est sympa, je me fais opérer jeudi, c'est sympa.
Mais au moins, ça venait du cœur.
Ouais, ça venait du cœur.
Moi, tu vois, je sortirai ça, je penserai à toi, mon Denis.
Ouais,
on te dit, on reprend ou pas? Est-ce que tu veux reprendre, toi?
Oui, je reprends.
Je suis à midi, mais je reprends maintenant. Non, il y a les paris RMC à partir de midi et tu seras évidemment avec moi. Ensemble, dans le même bateau, mon Denis. Christophe Cessieux, David Douillet, Julien Benneteau et donc Denis Charvet, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Alors, si vous voulez réagir sur un thème du jour, on a parlé de la retraite de Raphaël Nadal, de la virée suédoise de Kylian Mbappé, de Pogacar et des doutes autour de ses performances. Si vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous composez le 32-16, 11h45, les GG et vous aussi, vous êtes des grandes gueules. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir s'y coller et débattre. Petite sensation là, d'après vous, c'est quoi le débat caché du jour? Tiens Denis, c'est quoi?
LeBron James et son fils.
Le qui?
LeBron James. Avec son fils Bronny.
Oui, ils ont joué ensemble, ont là joué en ensemble. Match de pré-saison.
Mais c'est un peu grotesque.
Ah, oh là là, ouais. Le pavé dans la mare comme on dit,
non,
très bien.
Non, je sais de quoi je parle. C'est combien il touche le fils de...
Oui, 4 millions je crois.
4 millions.
Alors que normalement, il devrait avoir un contrat minable pour un 55e tour de draft. Oui, ça doit être 1 million garanti. Il a 4 millions. Et le papa, il est connu. Hein. Et le papa n'a pas beaucoup d'argent non plus. Il faut bien vivre. Julien Bennett, c'est quoi le débat caché?
C'est une émission de sport.
Oui.
T'es un fou de sport.
Oui.
Ah bon?
Donc, obligé aujourd'hui de parler de la.
Le golf?
Non. De la plus grande et de la plus historique.
On va où là?
Coupe de l'Amérique.
Exactement.
J'aimerais bien qu'on commence aujourd'hui, c'est pas au conducteur demain
de l'émission de demain, donc c'est obligé que ce soit là.
Ah, tu connais déjà le conducteur de demain, toi?
Je suis dans les petits papiers.
Bravo. David Douillet, c'est quoi le débat caché?
Bon, moi, c'est un peu moins drôle et ça me fait pas rire du tout. On vient d'apprendre qu'il va y avoir une baisse de 268 millions d'euros sur le budget des sports. Ça me saoule. Ça me saoule. Voilà.
Déjà qu'il n'y avait pas de sous.
Ah, il y en avait un peu plus.
Ouais, mais là, après les jeux, après tout ça, tout le monde s'est glorifié.
C'est incroyable, David. C'est incroyable.
Tout en disant, attention, les ambitions restent les mêmes. Mais on va donner moins d'argent.
Ouais, voilà, mais bien sûr. Quand tu vas au resto, tu prends un menu à 50 balles, c'est le même que celui à 300 balles.
Tout le monde râle. Les retraités qui ne vont pas être augmentés tout de suite, mais dans 6 mois aussi.
Ça l'intéresse.
Bah ouais, moi je m'intéresse plus
aux retraités.
Le sport, c'est un pan de la société, c'est l'éducation des enfants.
Je suis d'accord avec toi.
Faut arrêter, quoi.
Moi, je pense que les débats, ça peut être, a-t-on retrouvé Mbappé?
Non.
Qui vient de publier une photo à l'instant même, on le voit sur le site RMC Sport, une photo de lui gonflant le biceps dans une salle de sport, donc pour bien montrer qu'il est sorti de la boîte de nuit et que tout va bien, qu'il a repris l'entraînement et qu'il s'est rendu. Donc a-t-on retrouvé Mbappé, non? Ça peut être bien.
Oui, parce qu'à 10h, c'est a-t-on perdu Mbappé. Bravo pour cette proposition, Christophe.
Non, mais c'est David qui a gagné.
Et bravo pour cette information qui vient d'arriver là. On va peut-être faire ce
débat. C'est ça, les journalistes.
Ben, les GG premiers sur l'information, exactement. Alors, autre chose à vous dire, on verra, ce sera 11h30 pour le débat caché. Dans les grandes gueules du sport, comme la semaine dernière, vous allez pouvoir remporter aujourd'hui un séjour d'une semaine au domaine skiable Les Cibelles, au cœur des Alpes, avec Goélia, résidence et club de vacances. Pour 4 personnes, forfait inclus, c'est un magnifique cadeau. 4 personnes au ski pendant une semaine tenter de remporter ce séjour aux Cibelles. Envoyez ski au 732-16. Ski, Denis.
SKI.
Bravo.
SKY.
Voilà, ça c'est Sky et ça n'a rien à voir. 732-16. Ski dès maintenant et le grand gagnant sera avec nous un petit peu plus tard dans cette émission. Oscar Wilde a dit un jour, nul homme n'est assez riche pour racheter son passé.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
D'un côté, les milliards du Qatar au PSG. De l'autre, la troisième fortune mondiale au Paris Football Club.
Cette année, t'es un peu le challenger.
Ouais, je suis le challenger.
Les amants de Paris couchent sur ma chanson.
Ah, c'est l'histoire d'un serpent de mer qui n'en sera plus un. Deux grands clubs à Paris devraient bientôt cohabiter dans la capitale. C'était la sensation de la semaine. Nous avons appris que la famille Arnaud et le groupe Red Bull allaient prochainement racheter le Paris FC, actuel leader de Ligue 2. Cette promesse d'un deuxième grand club à Paris s'accompagne forcément de nombreuses interrogations. Quelle identité, quelle surface financière, quel stade, quelles ambitions, tout simplement. La musique qui fout les jetons et cette question. Le Paris FC peut-il faire de l'ombre au PSG? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non.
David Douillet.
Non.
Denis Charvet.
Pas pour l'instant.
Julien Beneteau.
Pas pour l'instant, mais oui quand même.
Oui quand même. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport qui suit de près ce dossier. C'est Loïc Braillet. Salut Loïc.
Salut JC, salut les GG.
Est-ce que l'on en sait un peu plus justement sur ce projet?
Alors tout d'abord, c'est la famille Arnaud à titre personnel qui va racheter le Paris FC via une de ses holdings pilotées par l'un des fils, Antoine Arnaud. Surface financière, 190 milliards d'euros. La première fortune de France deviendra donc actionnaire majoritaire. Il est prévu que Pierre Ferracci, l'actuel président, reste encore 2 ans avant de revendre ses parts. Red Bull, dont l'expérience dans le foot a séduit les Arnaud, sera minoritaire à 15% et sera en quelque sorte la caution sportive du projet. Dans un premier temps, ni l'entraîneur ni l'équipe dirigeante ne changera. Le mercato d'hiver devrait permettre au club de se renforcer pour viser une montée en Ligue 1 dès la saison prochaine. Mais l'idée, c'est d'y aller vraiment étape par étape, d'investir sur des jeunes talents d'Île-de-France à faire grandir. L'objectif, c'est donc d'abord de monter dans l'élite, se stabiliser dans le premier tiers du classement, puis de jouer des Coupes d'Europe. La grande inconnue de ce projet, c'est le stade où jouera le PFC. Le club va quitter le stade Charletti, inadapté et désuet pour le foot. Des échanges ont lieu en ce moment avec le stade français pour se partager Jean Bouin, mais le dossier semble très complexe. Et puis, il y a le Parc des Princes que le PSG pourrait quitter si les Qataris vont au bout de leur volonté de construire une autre enceinte ailleurs. Le PFC pourrait alors éventuellement récupérer le parc, ce qui arrangerait bien a priori la mairie de Paris au passage. En tout cas, le PSG se dit ravi de l'arrivée d'un tel investisseur à Paris. Les relations sont d'ailleurs excellentes entre Nasser Al-Khelaifi et Antoine Arnaud, grand habitué de la corbeille du parc. Ce rachat par les Arnaud fait en tout cas l'unanimité au sein du foot français qui le vit vraiment comme une vraie aubaine.
Une vraie aubaine. Merci beaucoup Loïc Braillet pour toutes ces dernières informations d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur rmcsport.fr. Le Paris FC peut-il faire de l'ombre au PSG? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. C'est plutôt non, Christophe.
Non, c'est même sûrement non.
Ah, c'est sûrement non.
Non, ça ne peut pas faire de l'ombre au PSG. En tout cas, pas avant 10 ans au minimum. Et je crois même que ça peut être une chance pour le Paris Saint-Germain, pour le football français en général, mais même pour le Paris Saint-Germain. Voyez un peu ce qui se passe dans toutes les grandes capitales européennes où tu as 3, 4, 5 clubs par grande ville. Regardez un peu l'engouement que suscite un derby entre Arsenal et Tottenham à London, un derby entre l'Atlético et le Real en Espagne, ou Milan Lazio à Rome. Non, ça fait partie, ça nous manque ça. On n'a pas ça en France. On a le derby entre Saint-Étienne et Lyon, mais c'est pas la même ville, c'est pas la même région, c'est pas les mêmes trucs. Je suis sûr au contraire que ça pourrait faire le plus grand bien au Paris Saint-Germain. D'abord se faire challenger, d'abord de ne pas gagner aussi facilement qu'il le fait sur le territoire français, et puis pour les supporters de foot à Paris, c'est génial. Tu pourrais choisir ton camp, alors que là, t'es obligé d'aimer le PSG ou alors de quitter la ville, quoi.
Carrément.
Denis a choisi le PSG, par exemple, mais peut-être qu'un jour le PFC le séduira. Non, moi je trouve que c'est une très très bonne idée, très très bonne chose, et ça ne peut que renforcer le foot français. En plus, Bernard Arnault est quand même beaucoup plus riche que les mecs du Qatar.
Ouais, il va y avoir un vrai enjeu quand même avec le Parc des Princes.
Ouais.
Pour moi, c'est l'enjeu.
C'est l'enjeu principal.
Ah oui, l'enjeu principal. Imagine que la mairie, le bras de fer entre la mairie.
Se frotte les mains. Hein.
Ben oui, mais si Hidalgo décide, enfin si la mairie décide de donner le stade au Paris Football Club.
Non, mais alors elle peut pas le faire comme ça. Hein.
Oui, mais ça se finit en 2 ans, je crois.
Non,
c'est un renouvelable là, je crois. Enfin, je ne veux pas me tromper, mais c'est pas si loin que ça. Et donc après, ben écoute, imagine que le PSG aille jouer ailleurs, en attendant son stade, aille jouer. Par exemple, au Stade de France, ça sera plus la même.
Mais justement, c'est l'essence de notre question. Le Paris FC peut-il faire de l'ombre au PSG? Et dans cette question, il y a donc cette histoire de stade. Alors, vous voulez y aller tout de suite, Julien aussi, vous voulez prendre le pas.
Alors, Denis, donnez un petit peu. Alors qu'il était
contre. Oui, je... mais là, oui, il a donné les arguments. En fait, je suis un peu d'accord avec Christophe. C'est pas dans l'immédiat.
C'est 2043, hein, le bail avec
avant. C'est une très bonne chose.
Tu seras plus là, hein,
c'est une très bonne chose. Pouvoir. C'est une très bonne chose pour le PSG, pour le foot français, c'est une très bonne chose. Mais moi, je pense que ça peut faire un petit peu d'ombre. Pourquoi? Parce que en fonction de comment ils construisent le club, en fonction de comment, enfin, le club est déjà construit, mais en fonction de comment l'équipe est construite, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce qu'ils vont dégager comme image, etc. Ça peut amener un autre public, les irréductibles fans du PSG. Ceux qui ont déjà 40 ans
resteront au PSG. Oui.
Resteront au PSG. Mais les jeunes d'aujourd'hui qui sont pour le PSG, qui ont 10 ans, 15 ans, et que le PSG va aller partir 2 ans au Stade de France et peut-être déménager avec le Paris FC, imaginons, c'est sympa, c'est cool d'aller à Jean-Bouin dans un premier temps, il y a 10, 15 000 personnes, comme un peu au rugby, une ambiance bon enfant, une équipe sympa, et puis derrière, ils vont, les gros matchs, ils vont les jouer au Parc des Princes et puis ils vont s'installer au Parc des Princes. Mais eux, ils peuvent capter une grosse partie de ce public-là parisien qui, aujourd'hui, n'a pas d'autre choix que le PSG et qui peut-être se retrouve pas dans ce PSG-là et aime le foot et d'une autre manière. Et c'est en ça, moi, je pense...
Là où tu as raison, c'est qu'il faudra séduire. En fait, il faudra gagner aussi. Il faudra des résultats.
Dans Ligue 1,
il faudra des résultats. Il faudra des joueurs qui, que tu vas aimer.
Un entraîneur que tu auras envie d'aimer aussi.
Oui, aussi.
Ça va être bien,
non,
ça.
Mais, oui, non, mais il y a beaucoup de...
Il y a de la place, c'est ça que tu es en train de dire.
Il y a de la place.
On est la seule capitale, on est la seule grande ville en Europe, il y a un seul club.
Mais à Londres, que
bon, Londres, il y a 5, 6, 7, mais Madrid, Berlin, oui, mais... Rome, tout ça.
Ok, à chaque fois on cite ces exemples en disant mais ça existe ailleurs. Mais
là, il y a la place.
Il y a la culture ailleurs pour ça, il y a la culture de la rivalité entre deux clubs d'une même ville. On n'a pas du tout cette culture en France, quand même.
Sans que ce soit des rivaux. Ils vont, c'est là en ça qui vont peut-être se faire du bien. Et puis cette rivalité, elle va peut-être naître après. Avant les années 90, la rivalité.
La culture de la rivalité entre l'OM et le PSG,
tu sais, il y a un exemple très dans le rugby, il y a un exemple très très probant, c'est-à-dire que Stade Français, quand Max Loisini le reprend, ils sont en deuxième division, je crois, même pas en groupe B. Donc il crée un club, il recrée un club parce qu'il a ce club avec une histoire, il recrée un club, il fait 80 000 spectateurs au Stade de France.
Très bon exemple, parce que là, il y a une vraie identité. Justement, on peut s'intéresser à l'identité qu'il faut donner.
Il est arrivé à créer une identité.
David Douillet.
Il perdure dans le temps.
Moi, je pense que Nasser Al-Khelaïfi aujourd'hui, il fait pas de l'acting. C'est-à-dire qu'il est très content de voir un club qui arrive. Non seulement ça va pas faire de l'ombre, mais ça va apporter de l'eau à son moulin. C'est évident. Monsieur Arnaud, il est pas tombé amoureux du foot du jour au lendemain. C'est pas un philanthrope. Et tout ça mûrement réfléchi, même si son fils était dans le carré VIP du PSG. Mais c'est une affaire financière. Ne l'oubliez pas. N'occultez pas cette affaire-là. Aujourd'hui, d'investir dans un club comme le PFC va pouvoir lui accorder une énorme plus-value. Une énorme plus-value, mettre du vent dans les voiles du PSG en plus, en construisant un club qui va commencer à venir mordre d'abord les talons, puis les chevilles, puis ensuite le mollet, peut-être le genou, et puis ensuite peut-être arriver à un niveau, pas équivalent, mais quasi, assez rapidement. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Même si la valorisation et l'investissement qu'il y aura eu dans le PFC sera beaucoup moindre que celle qu'il y a eu dans le PSG, eh bien on va comparer. On va les mettre au même niveau. Et la valeur du PFC sera une valeur qui sera boostée par la valeur du PSG. Et donc là, je peux vous assurer que la plus-value, elle est monstrueuse. C'est une affaire d'argent, ni plus ni moins. À cela, on ajoute une petite pincée sur le stade, et vous aviez bien raison, où de toute façon, moi je suis sûr que le PSG veut s'en aller, veut construire un stade, parce qu'on ras le bol d'être là-bas, parce que c'est trop petit, la jauge est trop petite, on peut pas y toucher. Ça fera les affaires de la mairie qui va pousser le PFC à grandir du mieux possible. Vous verrez que tout le monde est content. Le PSG sera content, la mairie de Paris sera contente, le PFC sera content et monsieur Arnaud.
Le PSG sera peut-être content momentanément, mais moi j'attends avec leur nouveau stade le PSG. Ils vont en perdre des supporters le PSG avec un nouveau stade en périphérie de Paris.
Très, très intelligent.
Oui, tu as raison.
Non, mais moi, vous me parlez d'argent et tu as raison de le faire. Et on va accueillir Malcolm dans quelques instants qui veut réagir au 32-16. Mais pardon, il y a les valeurs, il y a l'histoire que tu racontes. Je pense qu'elle est ultra importante. Et en ce sens, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour un deuxième club à Paris. L'histoire. Oui, non, mais l'histoire, il faut la raconter vite. C'est-à-dire que, on sait qu'aujourd'hui, l'histoire du PSG, ce sont les Qataris qui sont arrivés, ce sont les stars. Voilà. Eh ben, il faut raconter autre chose. Parce que si tu essayes de copier, je pense que tu te trompes.
Mais ils vont pas copier.
Mais
oui,
il faut que tu ailles sur les valeurs humaines, sur le football plaisir.
Mais, ouais, mais on parle d'identité. C'est l'identité. Non, mais si tu veux que ça marche, ça perdure, c'est l'identité. Trouver une vraie identité qui te colle à la peau. Et c'est vrai que le Paris Football Club a cette originalité qui est un peu plus populiste, on va dire. Donc, ils veulent chercher quand même un public différent.
Ouais, aujourd'hui, l'identité, elle est pas très connue du Paris FC quand même.
On parle beaucoup d'identité aujourd'hui.
Non!
C'est 5000 spectateurs.
Mais en moins de 5 ans, ils ont dit dans les premières annonces, mais c'est pas encore officiel, ça va être officialisé dans les prochains jours.
La Ligue va y trouver son constat aussi, ça va bonifier les droits. Vous verrez que tout ça est une énorme bonne nouvelle pour tout le monde.
Ils vont être un peu comme il y a Red Bull là avec hein. Ouais. La caution sportive. Ouais. Ça va être un peu comme Leipzig ou Salzbourg, ces clubs-là, qui ont des stades de 25 000, 30 000, 40 000, mais qui remplissent.
Pardon, énorme erreur si tu fais ça. Énorme erreur si tu fais Leipzig. Une équipe de mercenaires, souvent traitée comme telle, avec beaucoup d'argent derrière.
Et de jeunes aussi. De jeunes qui vendent.
Il n'y a pas d'histoire. Enfin, je veux dire, tu vois des ailes sur le maillot et c'est tout. Enfin, je veux dire, si tu fais la même chose au Paris FC, je suis pas sûr que ça marche pour le coup.
Bah, je sais pas, une équipe de jeunes franciliens qui partent après dans les grands clubs, etc. Ça peut être aussi le début d'une histoire.
Ok. Y a Malcolm qui nous appelle au 32-16. Bonjour Malcolm.
Bonjour, comment ça va l'équipe ?
Bah écoute, ça va bien. On te retourne la question, toi, tout va bien ?
Moi, ça va bien. Ça va bien, merci.
Tu prends du plaisir en nous écoutant ou pas ?
Toujours.
Bon, super. Dis-nous, déjà, t'es supporter du PSG ou du PFC ?
PSG.
PSG.
Je ne fais pas partie des 5000 PDU qui vont à Charleroi.
C'est pas beau, ça.
La rivalité est en train de monter.
Regardez,
ça, c'est condescendant.
Non, c'est pas condescendant, mais si vous connaissez l'histoire du PSG et du PSC, on est des frères.
C'est le même club.
Ça marche déjà.
Ils se sont barrés avec la caisse et les pros à l'époque.
Voilà, c'est parfait. L'histoire, elle est là.
Voilà, donc là, ça peut relancer la rivalité, ça fait plaisir. Comme justement, je disais aux standardistes, plusieurs points à amener, déjà d'une. Ça permet déjà, alors, par rapport par exemple à Marseille, puisque j'entends souvent des Marseillais dire que le Marseille va être vendu ou autre par rapport à l'Arabie Saoudite, qu'un rachat se fait dans l'ombre, toujours. On ne le sait que quelques jours avant ou quelques semaines avant le rachat. Moi, ça fait plaisir qu'il y ait un rachat, qu'il y ait enfin un vrai derby dans une ville, parce qu'on est le seul pays dans les grands championnats qui n'avait pas ça. Mais en plus, alors par contre, je trouve que pour le stade et aussi pour la fortune Arnaud, on s'emballe trop vite. Les Arnaud, le fait qu'ils viennent avec Red Bull prouve que ça va pas être comme le PSG à déverser des millions, et que oui, il va avoir une vraie politique de formation qui est aussi un truc qui fait partie de l'histoire du PSC. Maintenant, le stade, Denis, tu t'es trompé, le bail c'est bien 2043, dans deux ans c'est les municipales, c'est ça le truc.
Et le truc, c'est qu'en fait,
le stade, quand bien même tu pousses le PSC à l'intérieur, il y a toujours les travaux à faire. Et moi, je ne pense pas, même s'ils sont très riche et compagnie.
Ouais, c'est vrai.
Ça m'étonnerait que les Arnaud arrivent et disent, OK, on veut bien lâcher les centaines de millions pour refaire le stade encore. Parce que le PSG, c'est pas juste agrandir l'espace, c'est aussi le remettre à neuf. Le parc, moi j'adore le parc, hein. Le parc est vieux. Et il y a beaucoup de travaux à faire dedans. Et la mairie ne veut pas payer pour les travaux. Donc,
t'es supporter du PSG, t'es content en tout cas.
Moi, je suis content, ouais.
On va être bien à Montigny-Bretonneux, tu vas voir.
Ah bah, tout le monde dit, bah attendez, c'est pas encore fait.
Ok, mais si c'est fait, est-ce que tu y vas? Est-ce que tu suis le PSG?
Un vrai fan du PSG ne va pas quitter. Déjà, un fan d'un club ne quitte pas son club parce que son club change de stade.
Oui, mais enfin, c'est pas que changer de stade, c'est aussi changer de d'environnement, le kilomètre, c'est pas le même, c'est pas le même truc.
Ça pas de rentrer de Montigny-Bretonneux le dimanche soir à 23h pour rentrer à Paris, tu vas voir.
Lyon,
est-ce que le taux de remplissage du stade, depuis qu'ils ont leur grand stade, ils font plus que Gerland?
Demande à Denis son expérience.
Nice, et chez Christophe Cessieux, tous les nouveaux stades qui sont en périphérie des villes.
À Bordeaux aussi.
Ça galère beaucoup plus parce qu'on n'a pas de transport, parce que on n'est pas capable de faire des beaux stades. Je suis d'accord avec le Real Madrid, le Parc des Princes, il est trop vieux, il faut le refaire.
il est dans la ville, il est là, etc. Il faut le refaire dans la ville, comme le Real a fait avec Bernabéu, comme le Barça a fait avec le Camp Nou.
Bernabéu, ils ont 80 000 places.
Oui, mais il faut le refaire, l'agrandir là où il est. Il faut arrêter de...
Le secret, c'est les moyens de transport. Okay. Tu peux les faire où tu veux. Si tu n'as pas les moyens de transport
adaptés, tu ne peux pas avoir les voisins vont faire la tête, Denis. Hein.
Merci, Malcolm, d'avoir composé le 32-16 et d'être venu participer à notre débat. Le débat caché, dans quelques instants, il est 11h27. Restez bien avec nous. Quel débat ai-je préparé pour nos GG? Pour l'instant, elles sont dans le noir. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi. Encore 30 minutes de plaisir avec nos GG ce matin. Christophe Cessieux, David Douillet, Julien Beneteau, Denis Charvet. Dans 10 minutes, c'est à vous de jouer. Vous êtes vous aussi des grandes gueules. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour. C'est très simple. Vous venez lui dire en face et vous venez débattre vous aussi dans cette émission. Vous composez le 32-16. Il est donc 11h32 minutes et 33 secondes. 34, ça file à une allure. Débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien pour l'instant, mais elles vont devoir débattre sur l'émotion. Parce que je vais vous demander pour une fois, non pas un oui, non pas un non, mais un nom, N-O-M, le débat caché. C'est ça.
Un pour tous et tous pour un, lorsque l'on est mousquetaire. Un pour tous et tous pour un. On est comme des frères. Un pour tous, c'est tous pour un. Il faudra s'y faire. Les autres ne sont pas loin quand on en voit un. Un pour tous, c'est tous pour un.
J'adore ce générique. Ah, les mousquetaires. Après Gilles Simon et Joe Wilfried Tsonga en 2022, c'est au tour de Richard Gasquet d'annoncer sa retraite, un peu éclipsée par celle de Raphaël Nadal, il faut bien le dire. Mais c'est pas l'objet de notre débat. Le Français arrêtera pour de bon après Roland-Garros 2025. Il ne restera alors plus qu'un seul des quatre mousquetaires en activité, en la personne de Gaël Monfils, qui risque d'arrêter aussi prochainement, une à une. Les pages des 20 dernières années du tennis français sont en train de se tourner. Débat extrêmement compliqué que je vous propose ce matin dans les grandes gueules du sport, car il va falloir choisir, mes GG, lequel des mousquetaires allez-vous le plus regretter? Un nom à me donner et à défendre, évidemment. Lequel des quatre mousquetaires allez-vous le plus regretter, mes GG? Christophe Cessieux.
Moi, je pense que c'est Gaël Monfils que je regretterai le plus.
Gaël Monfils. One point. David Douillet.
Moi, c'est difficile. Hein. Je dirais l'ami de Tsonga.
Joe Wilfried Tsonga, one point. Denis Charvet.
Aucun. Non, pas moi. Richard.
Julien Beneteau.
Richard Gasquet, one point. Oh, le pauvre Gilles Simon. Julien Beneteau, quel est le.
Tu as joué avec eux, je sais pas, je suis d'Artagnan.
Sur la sensation, lequel tu vas le plus regretter? Julien Beneteau.
Lequel je vais le plus regretter? Regretter.
Il l'a déjà, c'est pas grave. Bah oui,
j'hésite entre Richie et moi.
T'as quatre potes et tu dis, s'il y en a un.
J'hésite avec Richie et moi, parce que Gaël, mon fils, il avait. Il est capable de faire des choses et de procurer des. En tant que spectateur, je vais dans un stade regarder un match en night session. Il y a des trucs incroyables. Et avec Richard, j'ai vécu des choses aussi fortes personnellement. Donc c'est compliqué pour moi. Tu comprends?
Non, je comprends pas. Lequel alors? Mon fils ou Gasquet?
Bien non.
Richie, parce que comme ça, je reste avec Denis toute la matinée.
Mais non, mais c'est comme si toi on te demandait, tu préfères ton père ou ta mère, JC?
On va peut-être pas quand même. Les quatre mousquetaires, c'est pas.
Mais tous tes meilleurs amis, tu dois en choisir un. Les autres, tu les dégages.
Mais tu les dégages pas.
Non, mais pour Julien, je comprends que ce soit.
Non, mais pour Julien, c'est très dur.
Ok. Ben, raconte-nous, pourquoi Richard Gasquet alors?
Richard, parce que aujourd'hui c'est celui que je vois le plus des trois autres, avec qui je passe du bon temps. On joue un peu aux cartes ensemble. Là, l'autre jour, je l'ai vu, il était à l'entraînement au CNE, j'étais là, je suis passé sur le court 10 minutes, un quart d'heure. On a rigolé parce qu'il était en train de jouer, mais il me dit, je te jure, Bennett, j'arrive plus à faire ça en match. Ma balle, elle avance plus en match, alors que là, il tapait la balle. C'était exceptionnel. J'ai dit, mais justement, on trouve ses sensations. Enfin, on était en train d'échanger, alors qui sait qui va arrêter sa carrière et que, mais il aime tellement ça, le jeu, le tennis, qu'on était en train de parler de ça. Et puis, avec ce qu'on a vécu au JO ensemble, voilà, moi, j'ai quelque chose, j'ai un objet symbolique, une médaille olympique à vie. Et je l'ai vécu avec lui.
Vous avez terminé en bronze à Londres.
Et donc c'est
en double.
Grâce à lui,
t'as vécu des moments.
J'ai vécu un truc fort et en plus qui est symbolisé par cette médaille et qu'on l'a bien vu cet été avec les Jeux de Paris, qui est chez moi et c'est ça. Voilà, une médaille olympique, ça vit en fait. C'est ça qui est particulier.
Ok, donc Richard Gasquet, mais on le comprend évidemment. Les copines aussi, Richard Gasquet.
Écoute, moi, parce que c'est quelqu'un de je le connais un peu, mais pas aussi bien que Julien évidemment, qui vient du rugby puisqu'il vient de Béziers, c'est un mec de chez nous, du Sud-Ouest, mais c'est pas que pour ça. C'est, je trouve qu'il a dégagé c'est celui qui a dégagé le plus d'authenticité. Par rapport à sa passion, c'est un mec qui a jamais triché, qui a toujours été là, qui est encore là et qui, moi, il a déclaré cette semaine, moi ça m'a touché. Il a dit, le premier challenge, j'ai commencé avec le challenger et là je finis avec les challengers, c'est la même sensation, il dit, c'est le même ressenti et je veux bien le croire. Je crois que c'est l'enfant de la balle et il est resté comme ça, pur, authentique,
il est très humble et qu'il est
plein d'humilité et que je trouve que c'est un grand champion parce que ce qu'il a fait, c'est colossal. Alors évidemment il restera toujours la déception, la tristesse de pas l'avoir vu gagner en grand chelem. Il aurait très bien pu avec son jeu il gagner un jour, mais c'est comme ça. Mais moi je le mets au-dessus des
autres. Vous avez vu quand même, c'est terrible ce que lui a fait Nadal. C'est-à-dire que Nadal a toujours battu Richard exactement. En tournoi. Oui, et le jour où Richard annonce sa retraite, 2 heures après, il y a Nadal qui dit
Il
a un dessin dans l'équipe.
Oui, mais Richard va finir en Roland Garros.
Et j'adore. Parce
alors que l'autre, non.
Avec son ami Vincent, ils l'ont crépi au Moscato Show pendant des années.
Vincent.
Et au GG de l'enfance. Ouais,
Non, pas vrai. Et puis il nous écoute. Le mien.
Mais ouais, il écoute. tout le monde, honnêtement, pour parler des quatre, ils ont tous l'amour du jeu. Parce que Gilles, il a fini tard. Joe, il a fini un tout petit peu plus tôt parce que son corps le lâchait. Mais pour les avoir connus, et Gaël le prouve encore parce qu'il est hyper compétitif. Il est hyper compétitif. Il est très très bien.
Il a fait un super match face à Alcaraz. 8e
contre Alcaraz. Et je crois qu'on en parlera demain. Ils ont tous en commun ces quatre, cet amour du jeu et d'aller loin et d'être très humble parce que Gilles, à la fin aussi, il était redescendu aux alentours de la 100e place, 110e place. Il allait faire des challengers, des qualifs. Parce qu'ils aiment ça. Ils aiment le jeu.
Mais ils aiment,
c'est des compétiteurs dans l'âme.
Ce qui est dingue, Julien, c'est que pendant des années, nous ici,
on les a
taillés, quoi. Parce que, évidemment, avec le talent qu'ils avaient, on était frustrés.
On aurait toujours espéré
qu'ils puissent remporter un grand tournoi, ce qui n'a jamais été le cas. Ils ont remporté la Coupe Davis, un grand chelem, je veux dire. Donc on les fracassait à longueur de journée, mais aujourd'hui, ils nous manquent parce qu'ils faisaient l'actualité quand même toutes les semaines, t'avais l'un des quatre qui arrivait quand même.
Ils sont
pas remplacés dans les quarts ou dans les demi-finales d'un tournoi, quoi.
Et ils sont pas remplacés pour l'instant.
Non. Moi, je le disais pendant leur carrière à certains dirigeants fédéraux, quand je leur disais à plusieurs titres, et j'étais encore toi, je dis, vous vous rendez pas compte de ce qu'ils font. À Roland-Garros, ils ne gagnent pas, mais ils sont en quart ou en demi. Je lui ai dit, déjà, d'un point de vue marketing, économique, etc. Vous avez, pour vos partenaires, vous avez toujours un Français en quart ou en demi. Pour France Télévisions, vous avez toujours un Français en quart ou en demi. Vous allez voir, dans 10 ans, quand il va y avoir 2 étrangers.
Donc, ce n'est pas qu'une question de médias. Même au bureau fédéral, même à la fédération, on se posait la question.
Parce qu'on disait, ils ne gagnent pas de grand chef, c'est quoi ? 3 sur 4, et Richard, moins, parce qu'il a été formé par son papa, et après, il a été dans le giron fédéral. Les 3 autres, sur cursus fédéral. Pôle France de Poitiers, l'INSEP, le CNE. Donc, ça veut dire que... Et c'est pas parce que... Et ça a été une des erreurs aussi de certains dirigeants de la fédération, de remettre en cause le mode de formation, de fermer l'INSEP, de remettre en cause les pôles France, parce qu'on n'a pas gagné le grand chelem chez les hommes. Mais quelle erreur monumentale. On en a eu 4 dans les 10. Ils ont gagné une médaille olympique, ils ont gagné une Coupe Davis, etc. Le système de formation, il fonctionne et il fonctionnait. C'est juste qu'après, pour aller chercher un grand chelem, Voilà. Là, il y a d'autres choses à aller chercher, mais c'est de leur propre chef. Et puis, ils sont tombés dans une génération de dingues où Federer. Faut pas oublier que Richard. Il faut pas oublier que Richard, une année, il fait demi à Wimbledon. Il bat Andy Roddick, qui est quatrième ou cinquième mondial en 5-7, 8-6 au cinquième. Le lendemain, il doit se taper Djokovic ou Federer. Faut pas oublier que Joe Tsonga, en quart de finale de Wimbledon, il est mené 2-7-0 contre Federer. 2-7-0 contre Federer sur le central. Il gagne. Mais derrière, pour gagner le tournoi, il doit jouer Djokovic deux jours après en demi et Nadal en finale. Putain, il doit gagner l'Alpe d'Huez, le Galibier, le Ventoux devant Pogacar, devant Armstrong et devant Merckx. Bah ouais, ils l'ont pas fait. Mais c'est monstrueux ce qu'ils ont fait.
Ouais, mais à vaincre sans péril, tu triomphes sans gloire.
Je suis d'accord avec toi, David. Mais ils sont. Mais c'est sûr qu'il y a une grande page du tennis français qui va se tourner.
Ok, pourquoi Tsonga rapidement, David?
Parce que j'aime pas être comptable, mais il fait partie des Français qui ont été hyper bien classés à l'ATP. Il a été jusqu'à, je crois, le cinquième. Julien, tu me dis.
Ouais, Joe, Joe, t'as raison. Il parce qu'en termes de plamage, c'est le deuxième plus grand joueur ou troisième.
Son meilleur placement, voilà. C'est quoi?
C'est cinquième.
Cinquième, ouais, c'est ça. Donc voilà, ça pèse, quoi. C'est un poids lourd pour moi. Et on peut pas occulter ça. Sa carrière, ses résultats, et Julien, tu viens de l'expliquer sur Wimbledon. Voilà, moi, ça reste celui, si je ferme les yeux et que je pense à c'est son nom qui me vient en premier, voilà, pour ces raisons-là.
Ok, je pensais que c'était parce que t'aimais les barres chocolat.
La question à Julien.
Très rapidement.
Non, qu'est-ce qu'il a manqué à Richard pour gagner un grand chelem?
J'ai toujours voulu lui poser la question. Je pense que physiquement, il avait un jeu qui lui demandait beaucoup. Il dépensait beaucoup d'énergie et je pense que il avait pas forcément la caisse physique pour tenir 15 jours à ce haut niveau. Et peut-être que dans l'éducation sportive, sur le goût de l'effort, à un moment donné, paradoxalement, il a eu beaucoup plus le goût de l'effort sur les 5, 6, 7 dernières années de sa carrière pour se maintenir, pour être compétitif.
Mais pas quand il était au top.
Qu'au début, se reconstruire et s'étoffer, je pense.
Ok, 11h43, donc ça nous a permis de débattre évidemment sur les mousquetaires et de cette information aussi de la semaine, hein, avec cette annonce de la retraite de Richard Gasquet. C'est pas pour tout de suite, hein, on va encore en profiter un peu. Son dernier tournoi, ce sera Roland-Garros 2025. On se retrouve dans quelques instants avec vous les auditeurs. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour, vous venez lui dire en face. À tout de suite, le 32-16.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h47 avec Christophe Cessieux, David Douillet, Julien Beneteau, Denis Charvet. Encore quelques minutes de bonheur dans les grandes gueules du sport. Dans quelques instants, vous allez affronter une GG, vous les auditeurs. Il y a déjà beaucoup de monde au standard qui vous attendent, mes GG. Sachez-le. Mais tout d'abord, on accueille Armel. Bonjour Armel.
Ouais, salut les grandes gueules.
Oh, Armel, c'est pourquoi?
Ouais, bravo.
Pourquoi tu nous appelles?
Ah ben pour la semaine au ski.
Oh là là, mais pourquoi tu vas aller au ski?
Ah ben, ça fait un petit bout de temps que j'y ai pas été, c'est vraiment cool.
Tu veux emmener qui? Si jamais tu gagnes, tu veux emmener qui?
Ah ben devine, ça va être des potes et ça va être vite trouvé.
Ah très bien, alors pour ça évidemment il faut répondre à une question subsidiaire, hein. On gagne pas comme ça un séjour au ski sur RMC les doigts dans le nez. Hein.
D'accord.
Quel est le grand tournoi gagné par Julien Beneteau?
Le tournoi de Lyon.
Pas du tout, mais bonne réponse. Tu vas partir au ski, Armel, bravo.
Ouais, merci à vous les grandes gueules. Désolé,
au domaine skiable, les Cibels, c'est de ma faute, hein. Je suis allé le taquiner un petit peu. Ouais. Au cœur des Alpes, avec Goélia, résidence et club de vacances pour 4 personnes, forfait inclus. Vous allez vous régaler. Il y a une petite place pour Bibi ou pas?
Ouais, pas de problème.
Bon, très bien.
Il faut que tu viennes les mains chargées, hein, par contre.
Mais de quoi?
Ah bah,
saucisson,
de l'après-ski. Voilà.
Ok, très bien.
Bon, ça va, au camembert.
Oui,
bon, merci bonjour. Les grands bisous. Merci beaucoup.
Merci ta fidélité, Armel, et régale-toi. Tu nous envoies les petites photos, hein, quand hier.
Ça marche, pas de soucis.
Allez, salut Armel. Ciao, bravo. Ciao. Une Merci. Semaine au ski pour 4 personnes, ça c'est un beau cadeau dans les grandes gueules du sport. Il y aura une autre semaine demain à gagner. Allez, tout de suite, c'est à vous de jouer.
Les grandes gueules du sport sur RMC avec les Cibels. Domaine inoubliable, accessible à tous, pour faire le plein d'émotions et d'expériences mémorables.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
Ludovic au 32-16 nous appelle. Bonjour Ludovic.
Bonjour.
Tu veux t'attaquer à qui ce matin, Ludovic?
Ben en fait, j'aurais voulu m'attaquer à vous tous, parce que pour moi, vous avez oublié un argument important dans le débat du plus grand espoir sportif. Mais quitte à prendre le plus frêle, je vais prendre David.
David, ouais, tu as bien raison.
T'as raison. Prends-le.
Alors, notre débat sur Rafael Nadal, c'est remporté 14. Roland-Garros, est-ce le plus grand exploit du sport au monde, de l'histoire de notre sport, ok? Regardez ce qu'écoutait, écoutez ce que disait, pardonnez-moi, David Douillet.
Il a gagné son premier titre de Roland-Garros à 19 ans. Et il a gagné son 14e titre à 36 ans. À 17 ans d'écart, les copains. Essayez de me trouver dans la même discipline, même championnat, même truc, etc. Avec les adversaires les plus forts, évidemment. Il les a tous battus au fur et à mesure de ces 17 années. Trouvez-moi un athlète, trouvez-moi une discipline qui puisse être comparée à ce que je viens de dire.
Voilà, pour David, c'était clair. Oui, c'est le plus grand exploit du sport. Ludovic.
Alors pour moi c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que le tennis. Donc moi j'ai joué 20 ans au tennis. Ouais, j'ai donc à mon petit niveau, mais je vois un peu ce que c'est. Le tennis sur terre battue, c'est un sport de niche. C'est pas le tennis, c'est un sport multi-surface. La terre battue, techniquement, tactiquement, la manière de frapper la balle, de se déplacer, de jouer son adversaire, c'est pas du tout la même chose que sur les autres surfaces. Or, Nadal, ça fait aucun doute, c'est un immense champion, mais il n'a pas été ultra dominant sur les autres surfaces.
Comme oui, mais il a gagné.
Et l'adversaire. Ouais, mais l'exploit de gagner à Wimbledon, parce que c'est ça qu'on va me dire, c'est encore un plus grand exploit que gagner 14 Roland-Garros, selon moi.
Mais n'importe quoi. Alors attends, ton argument, tu dis que le tennis sur terre battue, c'est un sport de niche. Mais alors le tennis sur gazon, c'est pas un sport de niche, c'est un sport qui n'existe même pas. Il est joué par deux pays dans le monde et il y a trois tournois dans l'année.
Ah, Ludovic, tu t'attendais pas à prendre Julien, hein.
Voilà. Merci. Merci, Juju. Mais pour moi, l'adversité sur terre battue, parce que là, je reviens sur David, tu dis avec les plus grands champions. Mais sur terre battue, oui, l'adversité, elle n'est pas la même, elle est beaucoup plus ciblée. Les grands champions, Sampras, il n'a jamais réussi à gagner Roland-Garros. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas que Nadal n'est pas un grand champion, mais je réfute fait que gagner 14 Roland-Garros soit le plus grand exploit du sport.
Ok, c'est quoi pour toi, Ludovic? Et je te laisse répondre, David, évidemment.
Ouais. Les plus grands exploits.
Ouais, le plus grand exploit.
C'est compliqué.
Évidemment, c'est un débat compliqué, mais c'est quoi? C'est Usain Bolt.
9,58 Usain Bolt. L'ultra domination de Michael Jordan avec une immense adversité. Et puis, pour faire plaisir à l'un de nos grandes gueules, on va dire que battre la Nouvelle-Zélande en 99, Ezel, pour la France en rugby.
Oui, mais ça, c'est chez elle.
Alors, en 99, déjà, c'était pas chez elle.
C'était à Londres.
Bon, allez, c'est bon.
Non, et dis donc.
C'est un tweet qui a
dit. On respecte Ludovic, mon Julien. David va répondre à Ludovic.
Non mais tout ça pour nous dire que t'aimes pas la terre battue et que tu sais pas bien jouer sur la terre battue, t'aurais pu être plus court. Alors, mais franchement, si les concurrents de Nadal étaient moins forts ou etc etc, ils n'allaient pas s'inscrire à Roland Garros, soit ils faisaient autre chose. Enfin voilà, moi ce que je retiens, c'est que tu peux parler de niche, d'une discipline qui est la terre battue, de niche. On s'en fiche, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tous les joueurs, tous les meilleurs mondiaux ont joué, étaient là, niche ou pas niche, et qu'il les a battus 14 fois. Enfin, il a remporté ce tournoi 14 fois sur une échelle de 17 années. Ça, c'est quelque chose qui... Alors, on va dire que pour être un peu plus consensuel, c'est un des plus grands exploits du sport depuis tous les temps. Voilà, il y en a d'autres parce que c'est difficile de comparer les disciplines. C'est difficile de comparer un sport individuel de sport d'équipe. C'est difficile de comparer des sports qui durent sur des heures et des heures et d'autres sur quelques minutes ou quelquefois quelques secondes. Tout est difficile. Bon, voilà. Mais
c'est le principe
moi, ce que je regarde surtout pour conclure, c'est le mental de l'athlète. Et force est de constater que ce garçon a un des plus beaux mentaux qu'on ait pu voir dans le monde du sport. Voilà, c'est le meilleur.
Et non les mentaux, hein, parce que c'était une émission fromage, on parlait bien de mental. Merci Ludovic. Tu vois Ludovic, parfois c'est un peu chaud dans le studio RMC,
mais en tout cas, merci de nous avoir appelé.
Et moi je suis très content de ta performance, bravo mon Ludo. Eric nous appelle également au 32-16, bonjour Eric.
Bonjour les GG.
Tu veux t'attaquer à qui? Tu vois que c'est pas facile de s'attaquer aux GG, hein, mais tu veux prendre qui toi?
Ah ben non, ça aurait pu être collectif, mais je vais prendre celui qui représente la morale pour moi, donc Monsieur Cessieux.
Monsieur Cessieux, c'est son débat
moral,
Kylian.
Excuse-moi.
Alors là, c'est un vrai débat. Est-ce que Monsieur Christophe Cessieux, c'est un débat dans le débat.
S'il vous plaît, on est pressé. A-t-on perdu Kylian Mbappé après sa virée suédoise? Écoutez ce que disait Christophe.
Quant à tout obtenu, ça fait un moment qu'il est riche, Christophe. De quoi tu peux encore rêver et qu'est-ce qui peut bien encore te motiver? Eh bien, je pense que ce qui peut encore le motiver, c'est de retrouver une adolescence qu'il n'a pas connue quand il avait 17 ans. Quand il avait 17 ans, il était sur les terrains, il travaillait comme un malade pour devenir un grand footballeur, pour gagner beaucoup d'argent. Eh bien, aujourd'hui, à 25 ans, il est adolescent.
Eric, c'est à toi.
Oui. Monsieur Cessieux, je vous ai trouvé un peu tendre aujourd'hui parce que Kylian Mbappé, que nous avons tous aimé, nous les aimons encore un peu, mais il a fait mal à notre maillot bleu. Il n'a pas voulu venir avec l'équipe de France, il a prétendu être blessé, on sait tous que tout ça c'est diplomatique, mais à une époque, quand c'était Neymar qui faisait ça, vous montiez sur tous vos chevaux.
Pas moi, hein.
Mais là, non, il faut rien faire, c'est Mbappé. On lui accorde le principe de la jeunesse, mais Neymar, il a commencé le football pour nourrir sa famille. À quel âge?
Moi, je
trouve qu'il y a trop de passe-droit pour Mbappé. Moi, si je suis Deschamps, chose qu'il ne fera pas, je suis certain, le capitana, je lui enlève.
D'accord. Bah alors tu lui enlèves le capitana et tu lui déclares la guerre. Et donc, tu n'as plus de Mbappé en équipe de France.
C'est pas grave, d'accord.
Donc tu préfères te passer
Mbappé,
de lui.
Il vient dans l'équipe de France, qu'est-ce que tu racontes?
Tu lui enlèves le brassard, tu penses, Mbappé,
on lui a reproché d'être supérieur au PSG. Il ne doit pas être supérieur à l'équipe de France et il n'est pas supérieur au Real. Au Real, on est en train de lui faire comprendre, t'es un joueur, on veut pas que t'ailles en équipe de France, tu nous obéis, point à la ligne.
Ouais. Je comprends que tout le monde aujourd'hui a envie de lui couper la tête. Je suis sûr que s'il avait marqué 3 buts, qu'il avait fait gagner la finale de l'Euro à l'équipe de France, vous auriez pas ce discours. Mais aujourd'hui, Mbappé, pour vous, c'est le passé, c'est un sale type, donc il doit dégager. On lui enlève le brassard, on le vire de l'équipe de France. On lui met les plumes et le goudron. C'est ça que vous voulez.
Notre auditeur a dit quelque chose de très juste. Il disait que les expressions étaient très tendres aujourd'hui. Ça ressemblait un peu à du gruyère, et, tu vois, comme c'est une émission sur le fromage. Ouais.
Ok.
De camembert.
Donc tu passes pas au maroilles, tout va bien.
Très belle chute. Merci Eric d'avoir été avec nous au 32-16. Très bonne GG également. Merci David, merci Christophe, merci Julien, merci Denis. On se retrouve demain dès 9h pour les grandes gueules du sport avec encore une équipe magnifique de GG.